Bonjour, chers frères. Avant de commencer, je voudrais mentionner que nous sommes en période de Nouvel An. Nous en sommes tous conscients. On ne peut pas dire que c'est la saison du Nouvel An comme on peut le faire pour la saison de Noël. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais vous n'entrez pas dans un magasin et vous ne voyez pas de décoration pour le Nouvel An. Tout tourne autour de Noël. C'est ce que nous faisons en ce moment. Mais c'est aussi la période du Nouvel An. D'accord. Et frère, en écoutant ce message, ce sera juste avant le Nouvel An, en fait. Il est donc tout à fait approprié de commencer ce sermon de la meilleure façon qui soit. Ce que je vais dire, c'est que les gens prennent beaucoup de résolutions pour le Nouvel An. Lorsque j'étais dans le monde, je me souviens avoir pris de telles résolutions. J'ai dit, je ne dirai pas un seul mot de travers cette année. Non, je l'ai fait. C'était pendant le carême. C'est pendant le carême que j'ai dit cela. J'ai dit, je ne dirai pas un mot de travers pendant le carême. Et puis, à la fin du carême, de retour dans le monde, je m'en fichais un peu. Alors, j'ai dit, eh bien, j'en ai fini avec cela, j'en ai fini avec le carême, alors il n'y a plus de raison de s'abstenir. Les gens prennent des résolutions ridicules pour le Nouvel An, comme pour le carême, pourrait-on dire. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne s'y tiennent pas vraiment. Ils commencent leurs résolutions. Ils peuvent dire, je vais faire de l'exercice cette année. Je vais aller à la salle de sport. Je vais avoir l'air mince et en bonne santé et, vous savez, tout ce que vous voulez. Mais 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, peu importe, l'abonnement au plan Ni Fitness qu'ils viennent d'obtenir devient inutile parce qu'ils sont assis chez eux et qu'ils ne veulent plus aller à la salle de sport. Ils veulent l'arrêter. Ils veulent simplement continuer à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire et à prendre leurs habitudes pendant les quelques 50 semaines de l'année. En un sens, le monde manque de maîtrise de soi parce qu'il se fixe des objectifs qu'il ne peut pas tenir. Il s'arrête au bout de quelques semaines en se disant, voilà ce que je dois faire, il faut que je prenne l'habitude, etc. Il faut que je prenne l'habitude de le faire, etc. Et puis ils s'arrêtent tout simplement. Ils n'ont pas la maîtrise de soi nécessaire pour continuer. La maîtrise de soi est un sujet dont Dieu parle beaucoup dans la Bible, mais sous un autre terme. Il utilise le terme de tempérance. La tempérance, vous pouvez l'écrire. Vous en avez tous entendu parler. Ce n'est pas un mot compliqué, mais c'est un terme que l'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui. On en parle beaucoup dans la Bible. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent plutôt de maîtrise de soi. Et c'est le sujet du message d'aujourd'hui, la maîtrise de soi. Avant d'aborder les 5 moyens puissants et simples d'utiliser la maîtrise de soi, nous allons d'abord comprendre ce qu'est la tempérance. Comme je l'ai dit, la Bible en parle beaucoup. Passons au chapitre 1 de Tite. Nous allons entrer directement dans le message. D'accord. Tite, chapitre 1, aborde directement le sujet de la tempérance. Vous pouvez le lire au verset 4. Tite 1, 4. À Tite, mon fils dans la foi commune, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus notre Sauveur. C'est pourquoi je t'ai laissé en Crète. Nous entendons souvent cela lorsque nous sommes sur le point d'assister à une ordination, par exemple. Ce sont les passages concernant les anciens ou l'entrée dans le ministère, ou l'élévation en grade, et ainsi de suite. Mais il s'agit des qualifications pour le ministère. D'accord. Paul, qui était un apôtre, s'adressait à Tite, et il dit ceci, c'est pourquoi je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui manque un aspect important d'un ministre dans une région et de s'assurer, s'il arrive dans une région, de voir ce qui manque et de le mettre en ordre, et que tu ordonnes des anciens dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. Et voici les qualifications pour ceux qui vont entrer dans le ministère. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, n'ayant pas commis d'émeute ni de désordre, car un évêque doit être irréprochable comme intendant de Dieu, n'ayant pas de volonté propre, ne se mettant pas rapidement en colère, ne buvant pas de vin, n'étant pas batailleur. Il ne conclut pas d'accord, etc. Ils ne sont pas adeptes du lucre. L'argent, pas pour l'argent. Mais aimant l'hospitalité, aimant les bonnes choses. Pas les hommes. Sobre, juste, sain et tempérant. La tempérance est l'une des qualités requises pour exercer un ministère. Il poursuit en disant, tenir fermement la parole fidèle qui lui a été enseignée. Car on ne peut pas, en tant que ministre, enseigner ce que l'on veut dans sa propre congrégation. Tout doit relever du corps du Christ, et c'est pourquoi il y a tant de confusion dans le monde. Les ministres peuvent enseigner ce qu'ils veulent. C'est tellement confus, mais dans le corps de Christ, nous enseignons la vérité, et chaque ministre s'en tient à la vérité sous la direction de Dieu, comme elle a été enseignée, afin qu'il puisse, paragraphe une saine doctrine, exhorter et convaincre les incrédules. C'est un mot fascinant. Nous pourrions dire « tempérer ». Dans la Bible, « tempérer » signifie souvent être maître de soi. Ce mot est un peu différent. Vous pouvez trouver le mot tempérance dans la Bible, et il signifie simplement le contrôle de soi, mais ce mot signifie, dans la vigueur ou la force. Le mot est égrate. Il signifie dans la vigueur ou la force, dans la force. Les ministres doivent vivre leur vie dans la force, avec tempérance en toutes choses. Tempérer, ce qui signifie qu'ils se contrôlent, mais qu'ils sont forts, mentalement, spirituellement, etc. Manquer de tempérance parce que le mot signifie en force, donc, si nous manquons de cette qualité, quel est le contraire de la force? C'est bien sûr la faiblesse. Manquer de tempérance est donc un signe de faiblesse, que nous n'avons pas la force nécessaire pour faire ce qui doit être fait ou la volonté nécessaire pour lutter contre les impulsions. Vous vous dites peut-être, eh, c'est juste pour les ministres. Je n'ai pas à exercer cette qualité de tempérance. Pourquoi devrais-je le faire? C'est juste pour le ministère. Non, retournez-vous. Vous n'avez peut-être même pas besoin de vous retourner. Passez au chapitre 2. Paul ne s'adressait pas seulement à Tite en lui disant, cherche ces hommes et assure-toi qu'ils ont cette qualité de tempérance dans leur vie. Que dit le verset 1 du chapitre 2? Quelques versets plus loin, mais dites les choses qui constituent une saine doctrine. Paul dit à Tite, que les vieillards soient sobres. Il ne s'agit pas d'anciens de l'Église. Il s'agit de véritables anciens de l'Église, de personnes d'âge mûr, de personnes qui ont vécu dans la vérité pendant des années, qui peuvent avoir des cheveux gris, qui ont de l'expérience, de la sagesse qu'ils ont acquise au fil des ans en étant dans la vérité et en connaissant la vérité. Que les vieillards soient sobres, graves, tempérants, solides dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Les vieillards, les femmes, de même. Les hommes âgés, les femmes âgées dans la foi, dans la vérité, ne sont pas exemptes de tempérance. Ils doivent être tempérés. Vous dites, je suis jeune. Je n'ai pas besoin de tempérance. N'est-ce pas? Attendez. Les femmes âgées, elles aussi, doivent avoir une conduite conforme à la sainteté, ne pas être de fausses accusatrices, ne pas s'adonner au vin, enseigner les bonnes choses, afin d'apprendre aux jeunes femmes à être sobres, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes. Tempéré, on pourrait dire. Chaste, gardienne du foyer, qu'elles leur enseignent tout ce qu'elles ont appris, notamment à être elles-mêmes tempérées, à obéir à leur mari et à ne pas blasphémer la parole de Dieu. De même, les jeunes gens les exhortent à la sobriété. Sobre d'esprit signifie modéré, saint d'esprit ou discret en toutes choses, se montrant un modèle de bonnes œuvres, dans la doctrine montrant de l'intégrité, de la gravité, de la sincérité, des paroles saines, et ainsi de suite. Frères et sœurs, il n'y a personne dans l'Église qui soit exempté de la tempérance et qui dise, « Eh bien, je fais partie d'une catégorie que Paul n'a pas décrite, donc je n'ai pas à faire preuve de tempérance, je n'ai pas à être tempérant ou à être maître de moi. » Frères et sœurs, nous devons tous nous maîtriser. Et y compris les personnes âgées, ceux qui sont plus âgés dans l'Église disent même d'enseigner et de montrer par l'exemple comment être tempérant à ceux qui sont plus jeunes. Comment exercer la maîtrise de soi auprès des plus jeunes, pour les aider à l'apprendre à leur tour. Transmettre cette merveilleuse qualité de génération en génération. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Paul a dit à Tite. Donc, où que nous soyons dans le corps du Christ, la tempérance est quelque chose que nous devons construire et avoir. Passons maintenant au chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens. Paul a également parlé de ce sujet aux Corinthiens. Premier chapitre des Corinthiens, chapitre 9. Ok, 1 Corinthiens 9, 23. Nous allons lire. Nous sommes juste en train de nous huiler, de nous préparer à comprendre, tout d'abord, ce que c'est. C'est un concept simple, cette idée de maîtrise de soi, mais il y a des façons étonnantes de l'appliquer dans nos vies. Des moyens très simples, mais nous y reviendrons au fur et à mesure de la progression du message. Mais d'abord, il est important que nous comprenions ce que c'est. Je pense que nous pourrions comprendre ce que c'est, mais ce n'est pas là, c'est un peu plus complexe que ce que nous pourrions penser. C'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. 1 Corinthiens, chapitre 9 et verset 23. Et je fais cela à cause de l'Évangile, dit Paul, afin d'y avoir part avec vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez donc pour obtenir. Nous sommes dans le christianisme pour obtenir ce prix. Nous sommes très peu nombreux dans un monde qui essaie de courir. Imaginez que nous sommes dans ce marathon géant avec le reste du monde. Ils ne courent pas, ils ne comprennent pas. Ils courent avec nous, mais ils ne comprennent pas la vérité. Ils courent en vain, d'une certaine manière. Mais nous, nous courons pour le prix, pour la maîtrise. Courez donc pour obtenir, et tout homme qui s'efforce d'obtenir la maîtrise ou le titre de champion, est tempérant en toutes choses. Nous sommes censés être tempérés en toutes choses. Si nous voulons recevoir cette grande récompense à la fin de la course, nous devons être modérés en toutes choses. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Les gens dans le monde courent pour obtenir toutes sortes de choses physiques, une couronne corruptible, des titres et ainsi de suite, mais nous courons pour obtenir une couronne incorruptible. Nous courons pour obtenir une couronne incorruptible. Je ne cours donc pas dans l'incertitude. Nous sommes dans cette course parce que nous sommes sûrs d'atteindre la ligne d'arrivée et d'obtenir cette couronne. C'est pourquoi je ne cours pas dans l'incertitude. Je ne me bats pas comme quelqu'un qui bat l'air comme un boxeur. La boxe de l'ombre. Mais je garde mon corps sous le coude et je le soumets. Paul dit qu'une autre façon de présenter les choses est de dire qu'il sait maîtriser. Il doit savoir comment se maîtriser afin d'obtenir cette couronne et d'atteindre la ligne d'arrivée. Il devait se soumettre. Et ce mot « soumission » est puissant. Il signifie être un esclavagiste ou s'asservir soi-même. Paul s'était servi comme le ferait un conducteur d'esclaves, un esclave, pour être tempéré, pour se garder sous contrôle dans tous les domaines de sa vie, de peur que, par n'importe quel moyen, parce qu'il est un ministre. Rappelez-vous que c'est le même Paul qui dit à Tite, c'est l'égalité de tous les ministres, afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Il dit qu'il ne veut pas manquer de tempérance, car il donnerait alors le mauvais exemple et serait un hypocrite, en disant aux autres d'être tempérants. Paul avait besoin d'être tempéré lui-même pour avoir l'autorité et la confiance nécessaires pour dire aux autres, vous aussi, vous devez être tempéré. Nous devons tous être tempérants. Nous devons tous être tempérants. Nous nous asservissons à cet égard. Une analogie puissante. C'est une image puissante, si l'on y réfléchit. C'est ainsi que nous devrions utiliser la maîtrise de soi. Comme je l'ai dit dans Tite 1, la tempérance est la force de contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions. Voilà ce qu'est la tempérance. C'est la force. Dans la force, on est capable de contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions. Dans la faiblesse, ce n'est pas le cas. Mais je vous pose la question suivante, quand la maîtrise de soi entre-t-elle en jeu? Quand devons-nous activer ou utiliser la maîtrise de soi? C'est là que les choses deviennent, peut-être n'avons-nous jamais envisagé la maîtrise de soi sous cet angle auparavant. Si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous verrez que nous avons besoin de tempérance pour combattre deux types de faiblesses différentes, si je peux m'exprimer ainsi, et les noter. Il y a deux domaines différents où la tempérance intervient vraiment, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avons besoin de tempérance pour lutter contre la paresse, et nous avons besoin de tempérance pour lutter contre la précipitation. Vous pourriez dire, quoi? Que voulez-vous dire? La tempérance pour combattre la paresse et la tempérance pour combattre la précipitation. Commençons par la paresse. La tempérance, ou maîtrise de soi, est la capacité à se dépasser. De sortir de sa zone de confort, si je puis m'exprimer ainsi, de sortir de sa zone de confort lorsque l'on se sent naturellement paresseux ou que l'on n'est pas disposé à faire quelque chose. La tempérance est la capacité à se sortir de la paresse ou à se retenir lorsque l'on pourrait naturellement agir avec précipitation. Prenons un exemple. Ce n'est qu'un bon exemple. Pensez à l'exercice physique. J'ai déjà évoqué cet exemple pour commencer le message, mais l'exercice est un exemple parfait. Nous pouvons manquer de maîtrise de soi en ce qui concerne l'exercice de deux manières différentes. Quelqu'un peut manquer de maîtrise de soi en matière d'exercice en disant « Oh, je suis tout simplement trop fatigué. Je préférerais être assis sur le canapé à regarder un film en ce moment, et par conséquent, je ne vais pas utiliser la maîtrise de soi pour faire de l'exercice et me pousser à faire de l'exercice. Je préfère rester ici sur le canapé et regarder un film. » C'est l'un des pièges de la maîtrise de soi. Un autre domaine dans lequel nous pouvons manquer de maîtrise de soi est celui de la paresse. L'autre domaine est l'inverse avec l'exercice. Encore une fois, nous pouvons être un de ces requins de la gym qui vont à la gym 8 heures par jour, 7 jours par semaine, et qui ne se concentrent pratiquement sur rien d'autre que leur apparence ou leur force ou autre. Ainsi, l'exercice à cet égard, la maîtrise de soi à cet égard, nous obligerait à nous retenir d'aller à la salle de sport aussi souvent, si cela a un sens. On peut donc être soit trop paresseux, soit trop zélé. La maîtrise de soi est ce qui nous aide à sortir de la paresse ou à nous empêcher de faire preuve d'un zèle excessif. D'accord? Donc, encore une fois, la capacité de nous pousser lorsque nous n'en faisons pas assez et de nous retirer lorsque nous en faisons trop. Jetons un coup d'œil rapide à la paresse. Proverbe 26, tournez-la. Proverbe, chapitre 26. Comment la maîtrise de soi ou la tempérance peuvent-elles nous aider à vaincre la paresse? Ce fossé unique, vous pouvez l'imaginer comme si vous étiez sur une route et qu'il y avait deux fossés sur la route. Le premier est la paresse ou le fait de ne pas en faire assez. L'autre fossé, c'est la précipitation ou le fait d'en faire trop. La maîtrise de soi nous aide à rester au milieu de la route. Ok, Proverbe 26 et verset 13. Le paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin. Le lion est dans les rues. Il trouve des excuses pour ne pas faire les choses, pour ne pas sortir et agir. Ils disent, je pense qu'il y a un lion dehors, je vais utiliser cela comme une excuse pour ne pas sortir dans la rue et faire les choses que j'avais à faire. Verset 14. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux tourne sur son lit. Il préfère de loin rester au lit et dormir plutôt que d'exercer sa maîtrise de soi pour sortir du lit et faire les choses nécessaires qu'il doit faire ce jour-là. Encore une fois, la maîtrise de soi arrangera une personne paresseuse. Pensez-y. Cela fait de la peine à cette personne. Excusez-moi, verset 15. Le paresseux cache sa main dans son sein. Il lui est pénible de la porter à sa bouche. Encore une fois, le paresseux est plus sage dans sa propre vanité que cet homme qui peut donner une raison. Ainsi, frère, la paresse est simplement une façon ou un fossé montrant un manque de contrôle de soi. D'accord? Passons à, vous savez, peut-être qu'il y a même des exemples dans la Bible auxquels vous pourriez penser, à un certain égard, pensez à Jonas. Jonas était, il avait une mauvaise attitude, mais dans un certain sens, vous pourriez penser, eh bien, il était en fait un peu paresseux. Il ne voulait presque pas. Il ne voulait pas faire ce que Dieu disait. Il ne voulait pas agir. Au lieu de cela, il préfère essayer de contourner le problème, en prenant ce bateau, et ainsi de suite. Il y a des exemples dans la Bible où les gens étaient paresseux et s'excusaient, comme cet homme dans les Proverbes qui a dit « Il y a un lion dans la rue. Je ne vais pas sortir. » C'est une excuse. C'est une excuse. Si nous nous surprenons à trouver des excuses, nous pourrions même nous arrêter, faire une introspection et nous dire, c'est peut-être un signe de manque de maîtrise de soi. Est-ce que je me trouve des excuses pour ne pas faire certaines choses alors que je sais que je devrais vraiment les faire? Encore une fois, il s'agit d'un fossé. L'autre fossé est celui du chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 10, permettez-moi de revenir ici, et au verset 1. Il est dit ceci, « Frères et sœurs, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rapporte qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. En effet, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Le verset 2 dit cette phrase intéressante, « Ils ont un zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Ils agissent à la hâte, et ne le font pas de la bonne manière. Ils agissent simplement. Nous devons, frères, agir avec connaissance. Nous ne pouvons pas juger et prendre des décisions rapidement, puis regretter nos décisions plus tard parce que nous avons agi trop rapidement. Monsieur Abouche me disait que son grand-père, qui est un... Monsieur Abouche est un grand joueur d'échecs, probablement l'un des meilleurs au monde, je dirais, du moins de mon point de vue. Je ne sais pas si c'est le cas. Non, il ne l'est pas. Mais il est incroyablement bon, très bon. Il me racontait que son grand-père lui apprenait à jouer aux échecs. Si vous connaissez Monsieur Abouche, vous savez qu'il est très actif, qu'il n'hésite pas à aller de l'avant. Donc, quand il était plus jeune, on peut l'imaginer, Avant d'avoir l'esprit de Dieu, il était probablement un peu partout et c'est la même chose sur un échiquier. Sur un échiquier, il faisait un mouvement très rapide et son grand-père devait lui dire, ne fais pas un mouvement si rapide. Il continuait à le faire. Ce que son grand-père lui a dit, c'est qu'il fallait s'asseoir sur ses mains et penser à trois mouvements possibles avant de faire un mouvement, avant de faire son mouvement. Il faut s'asseoir sur les mains et penser à trois mouvements avant de pouvoir lever la main et faire le mouvement. Cela lui a appris à ne pas agir à la hâte sur l'échiquier. Cela l'a entraîné à réfléchir. Cela lui a appris à s'arrêter et à réfléchir à quelque chose qui, alors qu'à ce moment-là, un mouvement précipité et rapide n'aurait peut-être pas eu d'effet néfaste, lui aurait potentiellement coûté toute la partie s'il avait fait un mauvais mouvement. Le fait de s'arrêter et de réfléchir à trois mouvements, puis de choisir le meilleur des trois, lui a permis de devenir un bien meilleur joueur d'échecs. L'un des meilleurs au monde, comme je l'ai dit. Je plaisante. En vérité, la tempérance est nécessaire pour ces deux fossés. Que nous ayons besoin de nous dépasser dans certains domaines ou de nous retenir dans d'autres, de nous asseoir sur nos mains, en fait, la tempérance, la maîtrise de soi nous aide dans les deux cas. Elle nous aide à nous pousser et à nous retenir. Passons maintenant au chapitre 29 des Proverbes. Encore un petit verset sur la précipitation, l'action trop hâtive. Pourquoi la maîtrise de soi est importante de ce côté du fossé? Le verset 29 des Proverbes dit ceci. Vois-tu un homme qui se hâte dans ses paroles? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si nous parlons simplement trop vite, si nous parlons à contre-temps ou hors de propos, Dieu dit que c'est agir avec précipitation. C'est parler avec précipitation, et il y a plus d'espoir pour un fou que pour cette personne. Le fait de s'arrêter, de réfléchir et d'exercer la maîtrise de soi aidera à résoudre ce problème. Cela nous aidera. C'est de cela que traite le reste de ce message. Si vous vous reportez au chapitre 25 des Proverbes, quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin, ce verset énonce les cinq principes, les cinq moyens pratiques qui nous permettent d'acquérir la maîtrise de soi. Proverbes, chapitre 25 et verset 28. Celui qui n'est pas maître de son esprit est semblable à une ville détruite et sans muraille. Une ville détruite et sans muraille. Elle n'est pas défendue. Pensez à la maîtrise de soi comme à une défense. C'est une défense contre les choses mauvaises qui peuvent venir et pénétrer votre esprit. Si nous n'avons pas la maîtrise de notre esprit ou la capacité de nous contrôler, nous sommes comme une ville dont les murs sont tombés, comme Jéricho, autrefois, démolie et sans muraille. Si nous manquons de tempérance, cela peut s'appliquer à la fois à la paresse et à la précipitation. La tempérance est la capacité de contrôler nos émotions et d'agir sur la base des faits, de la logique et des écritures. Encore une fois, c'est la capacité de nous pousser dans les domaines où nous devons vraiment sortir de notre zone de confort et de nous freiner dans les domaines où nous pourrions être trop hâtifs. Voici les quatre moyens pratiques de développer la maîtrise de soi. Passez au chapitre 5 de l'Épître aux Galates pour le point numéro 1. Galates, chapitre 5. Reprenons au verset 19, Galates 5, 19. Ce sont les choses que nous faisons naturellement en tant qu'êtres humains. Tous les êtres humains font ces choses naturellement. Quelles sont ces choses? L'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie. Or, certaines personnes sont plus enclines à certaines choses que d'autres, et vous comprenez. Sorcellerie, haine, dispute, émulation, colère, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, réjouissance. ce qui se passe au jour de l'an et à Noël, et toutes sortes de choses, et d'autres semblables. Je vous dis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Toutes les choses qui sont sur cette liste et plus encore, comme il est dit, tout ce qui n'est pas sur cette liste et qui pourrait être sur cette liste, si nous n'exerçons pas la maîtrise de soi dans ces domaines, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Quelle est donc la méthode de Dieu pour rectifier cela? Le verset 22 dit que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, et le Saint-Esprit de Dieu en nous porte des fruits. Regardons ces fruits. Les choses qui découlent de l'Esprit de Dieu en nous sont l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur et, enfin, la tempérance. Contre cela, il n'y a pas de loi. Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions lutter contre l'envie de faire toutes ces choses que fait l'homme naturel, l'envie, la méchanceté, les querelles, les disputes, l'adultère, yada, 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 etc. Et Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions avoir ses fruits. Le premier point est que la tempérance est un fruit de l'esprit. Donc, la première façon de construire la tempérance en nous, c'est d'avoir l'esprit de Dieu en grande abondance. En ayant l'esprit de Dieu, naturellement, ces grands fruits commenceront à croître. La tempérance découlera de la présence naturelle de l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons penser à notre conversion. Lorsque nous avons été appelés pour la première fois, ou lorsque nous nous sommes convertis pour la première fois, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu après le baptême. Ne vous rappelez-vous pas que vous avez pu commencer à vous contrôler d'une manière différente, que vous avez pu voir que vous étiez capable de surmonter certaines choses que vous n'étiez pas capable de surmonter avant d'avoir le Saint-Esprit de Dieu? C'est le fruit de Dieu, la tempérance, qui découle du Saint-Esprit. Lorsque nous avons son Esprit, nous commençons naturellement à grandir dans la tempérance. C'est un fait. Tout comme nous commencerons naturellement à avoir l'amour de Dieu. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu est partagé dans les cœurs de ceux qui ont son Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Ainsi, le fait d'avoir le plus possible du Saint-Esprit de Dieu en nous à un moment donné commencera par définition à produire ses fruits, y compris le fruit de la tempérance. C'est comme lorsque Christ, vous vous rappelez quand cette personne a touché son vêtement et qu'elle a dit qu'elle avait senti la vertu le quitter. Il pouvait dire quand le Saint-Esprit commençait à le quitter, comme l'énergie du Saint-Esprit le quittait. Mais c'est ce qui peut nous arriver à nous aussi, si nous ne demandons pas régulièrement à Dieu plus d'Esprit Saint, cet Esprit de Dieu peut nous quitter. Mais c'est ce qui peut nous arriver à nous aussi. Pensez donc à ceci. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions commencer à nous contrôler vraiment. C'est ce que nous voulons. C'est ce que Dieu veut, c'est que nous nous contrôlions. Et lorsque nous sommes capables de nous contrôler, nous pouvons commencer à nous occuper de l'adultère, de la fornication, de l'impureté, de la lascivité, de l'idolâtrie, et ainsi de suite. Chaque élément de ces listes peut être géré par la tempérance. Le chapitre 1 de la deuxième édition de Timothée, au verset 7, dit ceci. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais l'esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et d'intelligence. Le mot Esprit Saint signifie discipline ou maîtrise de soi. Lorsque Dieu nous a donné un Esprit Saint, il nous donne la capacité de nous contrôler nous-mêmes. Vous pouvez noter le verset 13 du chapitre 2 de Philippiens. Il est dit, Dieu nous aide. Il dit qu'il nous aide à vouloir et à faire ce qui est conforme à son bon plaisir. Il contribue à nous donner la volonté, La maîtrise de soi est la volonté de faire ce qu'il faut pour vaincre le péché. Encore une fois, ce n'est que la première des cinq façons très simples et pratiques dont nous pouvons exercer cet esprit de tempérance, ce fruit de la tempérance, c'est en ayant le Saint-Esprit de Dieu. Passons au chapitre 1 de Second Pierre pour le deuxième point. Deuxième Pierre, chapitre 1. C'est fascinant. Le deuxième point que nous lirons ici se trouve au verset. Reprenons le verset 5. Excusez-moi, c'est le verset 4. Des promesses extrêmement grandes et précieuses nous ont été données, afin que vous participiez à la nature divine, en échappant à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, et en vous appliquant à faire tout ce qui est en votre pouvoir. Il s'agit d'une liste de choses que Dieu dit que nous sommes censés faire. Si vous lisez rapidement le verset 10, il est dit que si nous faisons ces choses que nous allons lire, frères, faites preuve de diligence. Vous faites un choix d'appel. Bien sûr, si nous faisons ces choses, vous ne tomberez jamais. Ce que nous allons lire nous aide à ne jamais tomber. Revenons au verset 5 et lisons la liste des choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Elles s'appuient les unes sur les autres. Donnez-vous à fond, augmentez votre foi. Le premier point est la foi. Ajoutez à cela la vertu ou le caractère. Ensuite, ajoutez à votre vertu la connaissance et ajoutez à votre connaissance la tempérance. C'est le quatrième point, la quatrième qualité sur une liste de 8 qualités que nous sommes censés développer. Ajoutez à votre tempérance la patience. Et ajoutez à votre patience la piété. Et ajoutez à votre piété la bonté fraternelle, ou l'amour fraternel. Et à la bonté fraternelle, l'amour de Dieu. La charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez jamais stériles et infructueux dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui n'a pas ces choses est aveugle et ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Le verset 10 dit que si vous les mettez en pratique, vous ne tomberez jamais. La quatrième qualité de 8 est celle de la tempérance. La tempérance. Non seulement c'est un fruit de l'esprit. Quand Dieu vous donne son Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous sommes capables de construire où ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui fait tout pour nous. Nous ne pouvons pas demander autant d'Esprit de Dieu qu'il veut bien nous en donner et nous attendre ensuite à ce que tout ce que nous faisons dans la vie soit une parfaite maîtrise de soi et tout le reste, et que nous puissions faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est là que vous ajoutez l'Esprit de Dieu à votre capacité à vous contrôler et que vous devez construire tous ces points qui, selon le texte, vous permettront de ne jamais tomber. Parce que c'est la quatrième des 8 qualités, considérez ceci. Si nous n'avons pas de tempérance, disons que nous manquons de tempérance, si nous n'avons pas suffisamment exercé le premier point, et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu comme nous le devrions, et si nous ne montrons pas le fruit de la tempérance comme nous le devrions, alors le problème est que, si nous manquons de tempérance ou de maîtrise de soi, nous ne pouvons pas construire correctement les 4 qualités suivantes. Parce qu'il est dit, ajoutez à votre foi la vertu, et ajoutez à votre vertu la connaissance. Ajoutez à votre tempérance la patience. Si nous n'avons pas de tempérance, comment pouvons-nous ajouter la patience? Comment pouvons-nous ajouter la piété à cela? Comment pouvons-nous ajouter la bonté fraternelle, dans l'amour de Dieu? Si la tempérance n'est pas le fondement de ces 4 attributs, nous ne pouvons pas vraiment les développer au même niveau que nous le pourrions. Voilà l'importance de la tempérance. Mais voici le point réel. Ce n'était qu'une parenthèse. Le point réel, la deuxième façon dont nous pouvons développer la maîtrise de soi, c'est l'autre côté de la médaille. Pour avoir de la tempérance, Nous devons d'abord construire une fondation de foi, de caractère et de connaissance. Mais immédiatement avant de construire la tempérance, il est important de noter que nous devons construire la connaissance. La connaissance. Nous devons disposer d'une base de connaissance. Nous devons nous éduquer dans les domaines où nous devons progresser. La connaissance et l'éducation dans les domaines où nous devons développer la maîtrise de soi sont nécessaires pour construire la prochaine pierre de l'édifice de la tempérance. Donc, pour construire la tempérance, nous devons d'abord construire la connaissance. Et je le répète, ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Permettez-moi de vous faire part de quelque chose. Dans la société actuelle, nombreux sont ceux qui associent la faiblesse de caractère et le manque de maîtrise de soi à une maladie ou à un état. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certaines maladies qui ont été considérées comme telles mais qui, en fait, n'en sont pas. Il s'agit simplement d'un manque de maîtrise de soi. Les gens vont voir un médecin et lui disent « Docteur, j'ai ces crises explosives. Je me mets en colère contre les gens, ou je ne peux pas m'empêcher d'être provocateur ou autre. » Les gens iront chez le médecin et on leur diagnostiquera une maladie. Le problème, mes frères, c'est que lorsque les gens sont diagnostiqués avec, disons, par exemple, et comprenez bien qu'il y a des cas où il y a des gens qui sont légitimement atteints d'une maladie. D'accord? Vous devriez faire attention à ne pas dire que c'est une question de contrôle de soi ou de maladie. Non, ce n'est pas le cas. Mais beaucoup de maladies que nous allons voir ici sont simplement un manque de maîtrise de soi. C'est tout. Mais ils sont diagnostiqués comme ayant une maladie à la place. Le TDAH est un exemple, principalement chez les enfants, mais aussi chez les adultes, des personnes qui ne peuvent pas contrôler leur esprit, s'empêcher d'être hyperactives, etc. Il existe une autre maladie appelée trouble oppositionnel avec provocation. Il s'agit du trouble oppositionnel avec provocation. Vous dites donc que si vous vous disputez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être oppositionnel et provocateur. Je ne comprends pas très bien. Il existe un autre trouble appelé trouble des conduites. Il y en a un autre appelé trouble explosif intermittent, et un autre appelé trouble de la régulation de l'humeur. Y a-t-il quelque chose de sous-jacent qu'ils ne peuvent tout simplement pas contrôler? Peut-être. Mais je peux vous dire qu'un grand nombre de ces problèmes pourraient être résolus en faisant preuve de maîtrise de soi. Le monde ne veut pas être responsable de ses actes. Il veut pouvoir dire « Oh, c'est ce truc-là. C'est ce trouble oppositionnel avec provocation. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, cela n'a rien à voir avec mon caractère. C'est la maladie que j'ai, et je ne peux rien y faire. » D'accord? C'est le danger de ce monde. Il veut mettre des étiquettes sur les choses et les diagnostiquer alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une déficience du caractère. Beaucoup de ces maladies comportementales sont simplement un manque de force mentale ou spirituelle, de tempérance mentale ou spirituelle ou de maîtrise de soi. C'est là le point sur la connaissance. Nous devons progresser dans la connaissance des domaines où nous devons apprendre à nous maîtriser afin de pouvoir progresser dans la maîtrise de soi, mais nous devons d'abord trouver ces domaines. Il y a un point intéressant. Permettez-moi de dire ceci, en apprenant où se trouvent vos pièges en matière de maîtrise de soi, vous pouvez apprendre à vous maîtriser. Il est essentiel d'apprendre où se trouvent les pièges de la maîtrise de soi. Là où nous luttons avec la maîtrise de soi, nous devons être capables de mettre le doigt sur ces choses. Ce n'est pas ce que fait le monde. Le monde dit que c'est une maladie et que je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Mais nous, frères, nous devons nous regarder et dire, « Non, je sais que ce n'est pas une maladie. Je dois simplement faire preuve de maîtrise de soi pour la surmonter. Nous pourrions examiner des domaines de notre vie comme la parole. Commençons nos paroles. Contrôlons-nous nos paroles? Sommes-nous trop pressés ou trop paresseux? Ne donnons-nous jamais notre avis ou ne parlons-nous jamais, parce que c'est la chose à faire. Pour chacun de ces points, qu'il s'agisse du discours, de l'attitude, de la façon d'écouter ou de la gestion du temps, il y a toujours de fossés. Nous pouvons soit être paresseux dans la gestion de notre temps, soit être trop pressés et faire les choses trop rapidement, sans réfléchir aux implications. Manquons-nous de maîtrise de soi en ce qui concerne notre hygiène, notre poids, la musique que nous écoutons, les films que nous regardons, les divertissements que nous avons? Manquons-nous de maîtrise de soi en matière d'exercice physique? Vous pouvez dresser votre propre liste, et c'est ce que nous devrions faire pour répondre à ce deuxième point, dresser votre propre liste des domaines dans lesquels vous voyez que vous manquez de maîtrise de soi. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point consiste simplement à s'arrêter et à réfléchir. S'arrêter et réfléchir. C'est très simple, mais très profond. Prenons l'exemple de la parole. Si nous nous arrêtons dans une conversation avant de débiter quelque chose ou de dire quelque chose à la hâte, cela peut être très dommageable pour vous ou votre interlocuteur, mais si nous prenons juste une seconde pour nous arrêter et réfléchir, il arrive souvent que je pose une question à ma femme, et elle aime naturellement s'arrêter avant de dire quoi que ce soit, c'est comme cela qu'elle fonctionne. Elle ne répondra pas et je lui dirai, « Qu'est-ce qui se passe ?» Dis-moi ta réponse. Dites-moi ce qui se passe. Elle me répond, non, j'ai besoin de réfléchir. Laisse-moi réfléchir une minute. Je suis du genre pressé. J'aime les réponses et je veux connaître la réponse tout de suite, mais si je lui demande son avis, je veux qu'elle me donne une bonne réponse. Ce qu'elle fera, c'est qu'elle s'arrêtera et y réfléchira. En fin de compte, je suis reconnaissant pour ce temps, même si j'ai été frustré entre-temps parce que j'aime aller vite, mais elle a la capacité de faire cela, de s'arrêter et de réfléchir, et j'ai dû apprendre de cela. J'ai dû apprendre de cela. Cela nous aidera à faire preuve d'une plus grande maîtrise de soi. Tout manque de maîtrise de soi commence dans l'esprit. Si vous voulez bien vous reporter au chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens. Le premier chapitre des Corinthiens dit ceci au verset 23. Paul s'adresse à nouveau aux Corinthiens, « Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part avec vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ?» Nous avons revu ce verset tout à l'heure, mais souvenez-vous de ce que Paul a dit, à savoir que nous devons courir dans cette course pour obtenir cette maîtrise, ce but. Paul a dû dominer son corps et le mettre en esclavage. La façon dont il a pu faire cela, et vous le verrez ici, c'est qu'il a dû se soumettre lui-même. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il a parlé de ses châteaux de l'esprit, il a parlé de ses forteresses de l'esprit et de la façon dont nous devons démolir ces forteresses. Nous devons d'abord avoir une force mentale avant de pouvoir mettre en œuvre cette idée de tempérance ou de maîtrise de soi. Paul a dominé son corps et l'a réduit en esclavage, ce qui nécessitait un contrôle actif de la pensée. Il a pu contrôler son corps en contrôlant d'abord son esprit. Passez au chapitre 4 de Philippiens, chapitre 4 de Philippiens. Dieu veut que nous soyons modérés en toutes choses. Philippiens chapitre 4 et verset 5 dit ceci, « Que votre modération soit connue de tous, le Seigneur est proche. » Que votre modération soit connue de tous. Une chose que nous pouvons faire pour aider à développer la tempérance dans l'esprit est de nous demander de suivre cette méthode d'arrêt et de réflexion, et de nous demander si ce que je fais ou ce que je suis sur le point de faire est modéré. Encore une fois, nous revenons à l'idée de la route et des deux fossés. Si nous voulons faire preuve de maîtrise de soi, nous devons rester au milieu de la route et nous empêcher de tomber dans l'un ou l'autre fossé. C'est cela, la modération. La modération consiste à rester au milieu de la route et à ne pas être paresseux ou trop pressé dans les actions que nous entreprenons. Se laisser aller à l'un ou l'autre de ces comportements peut sembler bon ou agréable sur le moment. C'est là le problème. Il est facile de passer à l'action parce que cela semble bon sur le moment ou parce que c'est plus facile sur le moment, mais le problème, c'est que cela va probablement vous nuire plus tard. Le problème, c'est que cela vous sera probablement préjudiciable plus tard, à long terme. Cela nous amène au point suivant. Quatrième point, la tempérance exige que nous nous souvenions toujours de la situation dans son ensemble. Il faut toujours se souvenir de la situation dans son ensemble. Passez au chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 4, verset 7. Ce verset dit ceci, « C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ. Or, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez ceux qui, par nature, n'étaient pas des dieux, vous serviez de faux dieux. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, ou plutôt connu de Dieu, maintenant que vous vous êtes convertis et que vous avez appris la vérité, que faites-vous? Vous vous tournez à nouveau vers les éléments faibles et mendiants. Vous retournez aux choses que vous aviez l'habitude de faire, les pièges ou jusqu'à ce que vous désiriez à nouveau être dans la servitude. Il s'adresse aux Galates et leur dit, « Vous avez été convertis, alors pourquoi voulez-vous retourner à ces éléments faibles et mendiants? Pourquoi revenir à ces fausses manières de vivre sous ces faux dieux? Pourquoi faites-vous cela ?» Les Galates voulaient revenir à leur faiblesse parce que c'était plus facile, parce qu'ils désiraient revenir à l'esclavage, à nouveau, par les décisions impulsives qu'ils prenaient. Le mot « désirer » signifie être impulsif. Souvent, lorsque nous manquons de maîtrise de soi, nous agissons de manière impulsive. Nous laissons nos impulsions prendre le contrôle au lieu de contrôler nos impulsions. Il dit aux Galates qu'il manquait de maîtrise de soi. Il manquait de maîtrise de soi, et pourquoi, mes frères? Parce qu'il voulait être satisfait immédiatement des décisions qu'il prenait. Il ne pensait pas aux conséquences à long terme. Lorsque nous cédons à la maîtrise de soi, excusez-moi, lorsque nous cédons aux tentations qui nous assaillent et que nous n'exerçons pas la maîtrise de soi, c'est parce que nous préférerions être assis sur le canapé en train de regarder un film. Oh, c'est beaucoup plus facile. Oh, c'est tellement plus facile que d'aller à la salle de sport. Je préférerais être assis ici et faire cela. Il n'y a rien de mal à regarder un film. Je ne donne qu'un exemple, mais lorsque nous choisissons de manquer de maîtrise de soi, nous cédons à la satisfaction immédiate que cela nous procure. Nous ne pensons pas aux conséquences à long terme. Supposons que je choisisse encore et encore de m'asseoir sur le canapé au lieu d'aller à la salle de sport. Je me dis, oh, cette fois, j'irai à la salle de sport demain. Je préfère ce délai de satisfaction immédiate à la gratification différée que me procurerait le fait d'aller à la salle de sport et d'en voir les bénéfices sur une longue période de temps. Ce n'est qu'un exemple facile, un exemple physique facile à utiliser. Ce quatrième point est crucial parce que la tempérance, si nous exerçons la maîtrise de soi, signifie que nous avons constamment une vue d'ensemble à l'esprit. Nous voyons toujours la finalité. Nous ne cherchons pas la gratification immédiate qui résulterait d'un manque de maîtrise de soi à ce moment-là. Nous exerçons notre maîtrise de soi parce que nous voulons, au fil des semaines, des mois et des années, perdre du poids et être en bonne santé, etc. En allant à la salle de sport et en choisissant à chaque fois d'exercer cette maîtrise de soi, et en faisant cela, en exerçant cette maîtrise de soi une étape à la fois, il est plus facile d'avoir la maîtrise de soi. D'ailleurs, c'est un effet boule de neige. Tout commence en gardant à l'esprit la vue d'ensemble, la vue à long terme. Pensez au christianisme. Si nous nous laissons aller au péché régulièrement, nous ne gardons pas la vue d'ensemble à l'esprit. La raison pour laquelle nous ne cédons pas au péché, la raison pour laquelle nous poussons et combattons le péché et utilisons la maîtrise de soi, c'est parce que nous recherchons cette couronne. Nous recherchons le salut qui viendra à la fin, lorsque nous ne pourrons plus pécher, lorsque nous n'aurons plus à lutter contre les tentations du péché, parce que nous serons dans la famille de Dieu. C'est cela avoir une vue d'ensemble. C'est ainsi que nous exerçons régulièrement la maîtrise de soi en regardant vers l'avenir, en ne cherchant pas la satisfaction immédiate, car nous ne serons pas satisfaits, mes frères, nous ne serons jamais satisfaits si nous restons assis sur le canapé. Nous ne nous sentirons jamais satisfaits en manquant de maîtrise de soi. Nous ne nous sentirons jamais satisfaits en cédant à nos impulsions immédiates. C'est l'avantage de la maîtrise de soi, elle nous aide à, ou nous devrions, nous concentrer sur les choses à venir. Passons maintenant au chapitre 27 des Proverbes. Ne me croyez pas sur parole, Dieu dit que si nous nous laissons aller à un manque de maîtrise de soi, nous ne serons jamais satisfaits. Le chapitre 27 des Proverbes le dit au verset 20. Proverbe 27, 20. L'enfer et la destruction ne sont jamais rassasiés. Les yeux des hommes ne sont jamais satisfaits. Disons que nous manquons de tempérance avec les bonbons. Oh, les bonbons! J'aime les bonbons. Et disons que je me promène dans le magasin, que je vois le rayon des bonbons et que j'ai envie d'en acheter. Je me dirige donc vers ce rayon et je me dis, eh bien, je ne céderai à cette tentation qu'une seule fois. Ce bonbon vous satisfera-t-il? Il satisfera peut-être votre faim immédiate ou quelque chose du genre. Vous savez, le goût dans votre bouche est agréable, mais une fois que tout le sac de bonbons sera parti, vous en voudrez encore. Le problème avec le sucre, c'est qu'il crée une dépendance, donc tu en voudras toujours plus. Ce verset dit que vous n'aurez jamais assez de bonbons. Vous ne serez jamais satisfait en cédant aux bonbons ou à toute autre chose. Vous pouvez lire dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, quelques pages plus loin, que manquer de maîtrise de soi pour obtenir une récompense ou un plaisir temporaire ne sera jamais satisfaisant. Cela ne vous comblera jamais, ne vous remplira jamais. Cela nous laissera toujours sur notre faim, comme un toxicomane. C'est exactement ce que font les drogues aux toxicomanes. Ils prennent de la drogue, se sentent heureux à court terme, mais le problème, c'est qu'ils sont devenus dépendants et qu'ils en veulent de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'ils deviennent dépendants, ils ont besoin de plus en plus de drogue pour satisfaire leurs besoins, juste pour pouvoir ressentir quelque chose et se sentir comblés, mais en fin de compte, cela ne satisfait rien du tout. Ils ne voient pas la situation dans son ensemble. C'est là tout l'enjeu. Ecclésiaste 5 et verset 10. Disons que quelqu'un manque de tempérance en voulant garder pour lui de l'or, de l'argent, que dit l'Ecclésiaste 5, 10. Celui qui aime l'argent ne sera jamais satisfait de l'argent. Si vous aimez l'argent et que vous vous y adonnez, que vous renoncez à la maîtrise de soi et que vous dites, oh, je vais en garder un peu plus ici et un peu plus là, votre armoire sera bientôt pleine d'argent et vous. Mais cela ne suffira pas. La Bible dit que cela ne suffira pas. Celui qui aime l'abondance avec l'augmentation, c'est aussi de la vanité. Une fois que vous aurez rempli votre armoire d'argent, Vous devrez remplir votre autre armoire d'argent, puis l'arrière-boutique, la zone de stockage d'argent, parce que cela ne suffira jamais. Avez-vous déjà rencontré un homme riche qui dit « Je veux enfin m'arrêter à 15,3 milliards de dollars, et je ne veux pas un seul dollar de plus. Je ne veux pas un seul dollar de plus. Je ne veux pas un seul dollar de plus. 15,4, c'est trop. Je n'en veux plus. Non. S'il le pouvait, il voudrait devenir le premier trillionnaire, quadrillionnaire, peu importe, s'il le pouvait parce que ce verset est vrai. Céder aux tentations en manquant de maîtrise de soi ne vous laissera jamais satisfait, un point c'est tout. C'est pourquoi il est si important, frère, de revenir en arrière et de trouver les domaines dans lesquels nous manquons peut-être de maîtrise de soi. Examinez-vous attentivement. J'ai besoin de me regarder attentivement et de savoir où sont mes pièges. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ces tests de personnalité. Combien d'entre vous connaissent-ils? Il en existe plusieurs. Le test Myers-Briggs, par exemple, est très connu. Beaucoup de gens ont passé ces tests de personnalité, et ils peuvent en fait être un excellent moyen de vous aider à voir certains de vos attributs négatifs. Il vous indique quel est votre type de personnalité. Je suis de type Imschklmnop. Si vous le savez. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est ce que je suis. Mais ces tests de personnalité sont assez utiles. Maintenant, le problème. Il y a un grand inconvénient avec eux, si je puis dire. Ils vous diront où, vous savez, les attributs positifs de votre personnalité. Ils vous indiquent les attributs neutres de votre personnalité, mais aussi vos faiblesses. Et il y a un site web qui montre toutes les faiblesses de chaque type de personnalité. Je vais vous les lire. On peut y lire que la faiblesse d'un type de personnalité est qu'il est têtu, volage ou qu'il réfléchit trop. L'autre personne est étouffante, l'autre personne est insensible. Une autre personne pourrait devenir naturellement argumentative, ou une autre est naturellement impatiente ou intolérante ou trop sensible, ou satisfait les gens. Il s'agit là de tous les attributs négatifs, dont certains sont des jugements. La personnalité de certaines personnes est naturellement inflexible, d'autres sont indécises. D'autres sont imprévisibles, certains sont brusques et d'autres encore sont impulsifs. Permettez-moi donc de vous poser la question suivante. Nous disons qu'il s'agit de tests de personnalité. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Lequel de ces attributs négatifs fait en fait partie de votre personnalité, est-il donné à l'entêtement? La personnalité? Non. Si je suis naturellement porté à l'entêtement, c'est un problème que je dois connaître. Et c'est là que ces tests de personnalité sont utiles. Mais le problème, c'est que si nous passons ces tests de personnalité, nous pouvons dire, oh, je suis naturellement têtu. Je n'y peux rien. Je suis naturellement insensible. Je porte des jugements et il n'y a rien que vous puissiez faire pour me changer. Je vais te juger toute la journée et mon, parce que c'est comme cela que je suis. Non, cela ne fait pas partie de votre personnalité. C'est un trait de caractère qui fait peut-être naturellement partie de votre personnalité. Mais ce n'est pas une personnalité. Cela ne fait pas partie de votre personnalité. C'est là qu'ils peuvent être dangereux, s'ils sont pris et vus à travers la mauvaise lentille et utilisés incorrectement, les gens pourraient les utiliser comme des béquilles et dire, « Oh, eh bien, je suis juste naturellement agressif ou imprévisible, donc je n'ai jamais besoin de changer cela parce que cela fait partie de ma personnalité. » Non. Si nous nous retrouvons à passer ces tests de personnalité, Utilisons-les à bon escient et reconnaissons nos faiblesses. Non pas pour dire, eh bien, c'est juste ce que je suis, mais plutôt pour dire, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Parce que je vous garantis que la maîtrise de soi intervient dans chaque. Dites-moi comment la maîtrise de soi ne pourrait pas aider à réparer l'entêtement. Comment la maîtrise de soi pourrait-elle corriger le fait d'être naturellement un penseur excessif? Il suffit de se contrôler, de ne pas trop réfléchir. Dites-vous, non, non, non. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Si vous êtes naturellement insensible, apprenez à le devenir. Mais pour cela, il faut se maîtriser. C'est pourquoi c'est si important. Revenons au deuxième point. J'ai sauté cette partie dans mes notes, mais je voulais y revenir parce qu'il est très important que nous prenions le temps de construire une base de connaissances sur les domaines dans lesquels nous sommes faibles afin que nous puissions grandir dans la tempérance dans ces domaines. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre les défauts de caractère avec toutes ces choses. Trop sensible, intolérant, impatient, imprévisible, indécis, brusque, impulsif. Ne considérez pas qu'il s'agisse de problèmes de personnalité, mais plutôt de problèmes de caractère qui peuvent être corrigés si vous faites preuve de maîtrise de soi. Encore une fois, nous devrions tous faire preuve d'une grande prudence avec certaines de ces choses parce qu'elles relèvent de la psychologie de ce monde. Et c'est là qu'il faut être prudent. Soyez prudent. Quoi qu'il en soit, revenons au quatrième point dont nous parlons ici, à savoir que la tempérance nous oblige à avoir une vue d'ensemble. Voir la situation dans son ensemble. Passez au chapitre 50 du psaume. Psaume 50. Il ne nous reste plus qu'un seul point après celui-ci. C'est très court. Psaume 50 et verset 23. Celui qui me loue et me glorifie, celui qui a une bonne conduite, je lui montrerai le salut de Dieu. Cela nous amène au dernier point. Si nous adoptons une conduite correcte, si nous prenons les mesures nécessaires pour exercer la maîtrise de soi, Dieu nous montrera le salut. Et encore une fois, le salut est quelque chose que nous devrions voir de loin. C'est le but ultime. C'est l'ultime gratification différée, si je puis m'exprimer ainsi. Nous ne cédons pas aux satisfactions simples de la vie. Nous faisons preuve de maîtrise de soi afin d'obtenir la grande satisfaction d'entrer dans la famille de Dieu à la fin de ce long chemin. Mais tout cela nous amène au cinquième point final sur la façon dont nous pouvons exercer notre maîtrise de soi. Il s'agit d'établir un plan, de commencer modestement et d'être cohérent. Faire un plan, commencer modestement et être cohérent. Proverbe 2. Proverbe 2 et verset 11. Proverbe 2 et le verset 11 disent ceci, « Le discernement te préservera et l'intelligence te gardera. » Comment cela s'applique-t-il à l'élaboration d'un plan, au démarrage d'une petite entreprise et à la constance? Le mot « discrétion » signifie simplement « planifier ». Planifier, faites un plan. La planification vous préservera. C'est ce que dit ce verset. La compréhension vous gardera. Si nous planifions à l'avance et que nous disons « Ok, je vais ». Disons que nous commençons au début de notre journée. Nous entrons dans la journée. Nous prions peut-être ou demandons à Dieu, aide-nous, aide-moi à penser à l'avenir, à regarder en avant tout au long de la journée et à voir tous les pièges qui m'empêchent de me maîtriser. Aide-moi à penser à l'avenir, à regarder en avant tout au long de cette journée et à voir tous les pièges dans lesquels je pourrais manquer de maîtrise de soi. Planifiez. Cherchez-les. Surveillez-les. Sachez où ils vont arriver au cours de la journée ou essayez de les anticiper. Vous ne pourrez pas tout prévoir. Mais si vous savez qu'à la fin de la journée, Au terme d'une longue journée de travail, je reviendrai toujours sur cet exercice parce qu'il est si facile. C'est un exemple tellement simple. Si je sais qu'à la fin de cette longue journée, j'aurai envie de m'asseoir sur le canapé et de regarder un film, plutôt que d'aller pratiquer du sport, si je ne réfléchis pas à l'avance, si je ne planifie pas et si je ne me prépare pas tout au long de la journée à cela, si je ne prends pas cette décision, à la fin de la journée, il me sera très facile de manquer de maîtrise de soi et de faire ce qui est le plus facile. Je retomberai dans mes habitudes et je prendrai le chemin le plus facile. Mais si nous planifions à l'avance, si nous réfléchissons, je sais ce que je dois faire. Je vais faire un plan. Je vais prendre des mesures simples pour exécuter ce plan, ce qui nous aidera à créer une routine et à intégrer dans nos habitudes de vie l'idée et le concept de maîtrise de soi. La première partie des Corinthiens, 14:40, dit que Dieu veut que nous fassions toutes choses avec décence et ordre. Vous savez, nous pourrions regarder notre liste de domaines du point numéro 2. Nous pourrions regarder notre liste de domaines où nous pourrions voir que nous manquons de maîtrise de soi et nous sentir un peu dépassés. Une partie de la planification consiste à ne pas essayer de s'attaquer à tous ces domaines en même temps. Choisissez un, deux, quelque chose comme cela, deux des domaines sur lesquels vous savez que vous devez travailler le plus. Travaillez un peu sur ces domaines. N'essayez pas de les aborder tous, car si vous essayez d'exercer votre maîtrise de soi dans tous les domaines et pour tous les problèmes de votre vie, vous serez submergé et commencerez probablement à manquer de maîtrise de soi dans tous les domaines. Il suffit donc d'en prendre un ou deux, de faire des petits pas et de chercher des domaines dans lesquels vous pouvez faire de petits progrès, mais soyez cohérent. Soyez cohérent. Un pas après l'autre. Essayer de s'attaquer à tous les domaines où vous manquez de maîtrise de soi en même temps ne peut qu'aboutir à un échec. Commencez donc modestement et soyez cohérent dans un ou plusieurs domaines, ou dans quelques domaines que vous jugez les plus importants. Frères et sœurs, voilà en quelques mots ce qu'est la tempérance. Maintenant que nous savons de quoi il s'agit, nous devons l'exercer pour éviter de tomber dans l'un de ces deux fossés. Mais si nous demandons plus d'esprit de Dieu, comme le dit le premier point, si nous augmentons notre connaissance des domaines où nous manquons de tempérance, si nous nous arrêtons simplement et réfléchissons, si nous gardons la vue d'ensemble à l'esprit, plutôt que de céder à de simples tentations, et enfin, si nous faisons un plan et que nous nous y tenons, si nous restons petits au départ et si nous sommes cohérents, mes frères, nous pouvons exercer la tempérance, et comme il est dit dans Pierre, nous ne tomberons jamais.